Et le journal, c'est avec Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Une élection présidentielle émaillée de violence au Burundi, la capitale Bujumbura, a été secouée cette nuit et ce matin par des tirs et des explosions avant un scrutin sans suspense, boycotté par l'opposition au président Nkurunziza.
Un homme de 72 ans traîné de force devant un tribunal, début du procès hier pour Hissène Habré à Dakar. L'ancien président du Tchad est jugé entre autres pour crimes contre l'humanité.
Rétablissement historique des relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis, les deux pays ont rouvert leurs ambassades respectives à La Havane et Washington hier, mais la route pour reprendre des relations complètes est encore longue. Correspondance à suivre de Frédéric Carbone à Washington.
Il possède 2 exploitations sur 10 en France. Les éleveurs normands protestent pour la 2e journée consécutive contre la faiblesse des prix de leur production en bloquant plusieurs routes autour de Caen.
Du jamais vu, depuis sa création en 1818, le taux du livret A passera sous le seuil symbolique de 1% le 1er août prochain. Taux fixé à 0,75%, cette baisse s'explique par la faiblesse actuelle de l'inflation. Une explosion suivie de tirs entendus ce matin à Bujumbura, la capitale du Burundi, peu avant l'ouverture des bureaux de vote pour la présidentielle. Cette nuit, 2 personnes sont mortes dans la capitale. Un policier tué par l'explosion d'une grenade et un civil abattu par balle dans des circonstances encore inconnues. Preuve de la tension qui règne dans le pays. Le président Pierre Nkurunziza s'acharne à briguer un 3e mandat. Ses opposants crient à la violation de la Constitution et boycottent ce scrutin décidément marqué par l'insécurité. Esdras Dikoumana est à Bujumbura pour RFI.
Ici, les gens viennent au compte-gouttes. Une dame ici qui a bien voulu m'accorder une interview m'a expliqué qu'après les tirs de cette nuit, les gens ont très peur. Ils attendent qu'il fasse grand jour pour qu'ils puissent venir. Elle n'a même pas voulu donner son nom, c'est vous dire à quel degré les gens ont peur. Et même chose aussi dans les autres quartiers où je suis passé à Moussaga. Moussaga, l'un des quartiers où l'on manifeste le plus dans le sud de la capitale, où il y a eu beaucoup d'explosions. La dernière explosion de grenade a eu lieu vers 6h, moins 10 minutes, quelques minutes avant le début officiel du début de vote. L'opération de vote a pris du retard. Tous les bureaux de vote ont été regroupés dans des centres qui sont gardés par des soldats et des policiers.
Esdras Dikoumana pour RFI, à Bujumbura, pardon, pour RFI. Et depuis l'annonce fin avril du président Pierre Nkurunziza de briguer un 3e mandat, la crise politique au Burundi a fait plus de 80 morts. La médiation menée par l'Ouganda a échoué à renouer le dialogue entre le camp présidentiel et ses adversaires. Un échec également pour les pays occidentaux bien embarrassés par cette crise burundaise, Camille Magnard.
France, Belgique, États-Unis débordés dans cette crise par une autre puissance désormais incontournable dans l'Afrique des Grands Lacs, la Chine. Pékin, qui n'a pas ménagé son influence aux Nations Unies à la fin du mois de juin pour que soit maintenue l'élection présidentielle, Pékin, soutien inconditionnel de Pierre Nkurunziza depuis que ce dernier est contesté par la rue. D'ailleurs, l'agence AG News, aux mains de la présidence burundaise, n'a eu de cesse ces dernières semaines de louer la position chinoise face à ce qu'elle décrit comme une agression, une ingérence menée par Paris, Bruxelles et Washington, accusé d'avoir fomenté la tentative de coup d'État du 13 mai. La Chine, il faut bien le dire, a des raisons de vouloir maintenir Nkurunziza au pouvoir. Elle a besoin de son appui pour construire une ligne de chemin de fer particulièrement stratégique entre le port tanzanien de Dar es Salaam sur l'océan Indien et les mines de nickel qu'elle exploite dans l'est burundais. Pierre Nkurunziza peut aussi compter sur le soutien de la Russie qui recycle au Burundi sa doctrine internationale de défense de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale face aux visées impérialistes occidentales. Enfin, il faut ajouter à cela une dimension régionale très sensible dans cette crise, les liens qu'entretiendrait l'opposition avec le Rwanda voisin, le Rwanda considéré comme une pièce majeure de l'influence américaine dans cette région d'Afrique, accusé par Bujumbura d'armer discrètement l'opposition dans le nord du Burundi.
Camille Magnard pour France Culture. L'ancien président du Tchad, Hissène Habré, contraint de comparaître hier à Dakar au Sénégal. Il est jugé pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture par un tribunal spécial mise en place par l'Union africaine. La répression sous son régime entre 1982 et 1990 a fait quelque 40 000 morts. Un procès emblématique qui doit servir d'exemple pour la justice en Afrique. Fabien Hoffner est à Dakar pour RFI.
Du point de vue des victimes, la première journée du procès d'Hissène Habré à Dakar est une satisfaction. Selon l'une des ONG qui défend les victimes, la décision du président des chambres de le faire comparaître est, je cite, un soulagement car les victimes auront la chance de le regarder dans les yeux et de lui demander pourquoi elles ont été maltraitées et pourquoi leurs proches ont été tués. Il est en revanche peu probable que les victimes aient une réponse de l'ancien chef d'État tchadien, seul accusé, qui a décidé de se murer dans le silence et de ne pas reconnaître la légitimité des chambres africaines extraordinaires. Si Senabri est pour le moment forcé à comparaître, on ne sait en revanche pas si cette obligation va être maintenue tout au long des 3 mois du procès. Issenabré a en tout cas utilisé l'une de ses principales armes médiatiques en provoquant un incident filmé devant les caméras du monde entier qui ne seront désormais plus acceptées dans la salle du tribunal. Désormais, seule la télévision nationale sénégalaise sera autorisée à filmer et le tribunal diffusera le procès avec un différé d'une trentaine de minutes qui lui permettra éventuellement de couper certaines scènes. On attend également de savoir si Issenabré compte persévérer dans son refus d'être défendu par ses avocats. Si c'est le cas, le tribunal pourrait désigner un ou plusieurs avocats commis d'office, ce qui pourrait alors retarder le développement du procès.
En Turquie, les autorités accusent l'organisation terroriste État islamique d'avoir commis un attentat suicide hier dans la ville de Suruç, à la frontière avec la Syrie. 31 morts et une centaine de blessés. Parmi eux, des étudiants qui voulaient aider à reconstruire la ville de Kobané, située de l'autre côté de la frontière. Kobané, ravagée par la bataille entre l'organisation État islamique et les milices kurdes syriennes, c'était entre septembre et janvier dernier. Après 54 ans de froid diplomatique, le drapeau cubain a pris sa place hier dans l'entrée du département d'État américain ainsi que sur la toute nouvelle ambassade cubaine à Washington. À La Havane, une cérémonie est prévue le 14 août prochain pour la visite du secrétaire d'État John Kerry. Et hier, c'était le ministre cubain des Affaires étrangères qui était aux États-Unis. Conférence de presse commune entre les deux hommes. Là encore, une première en plus de 50 ans de rupture diplomatique. L'occasion de mesurer aussi tout le chemin qui reste à parcourir. Frédéric Carbone.
L'espagnol est un peu hésitant, mais quand on accueille un invité que l'on n'a pas reçu depuis plus de 50 ans, on met les formes. John Kerry s'adresse ainsi au peuple cubain dans sa langue pour évoquer la nouvelle relation entre les deux pays. Le ministre américain des Affaires étrangères répète que le chemin sera long, mais il ne cite aucun sujet de divergence. Son homologue cubain est moins diplomate, et pour être sûr d'être bien compris, c'est en anglais que Bruno Rodriguez pose ses conditions. J'insiste sur le fait que la restitution du territoire occupé de Guantanamo ainsi que les réparations pour les dégâts humains et économiques sont indispensables si l'on veut aller plus loin dans la normalisation de nos relations. Aucune surprise là-dedans, il s'agit de demandes permanentes du régime cubain. Sur l'embargo, John Kerry répond que le Congrès américain est saisi et sur Guantanamo, léger agacement, mais l'heure décidément est au respect mutuel. Nous comprenons que c'est un sujet sensible pour Cuba, mais pour nous, ce n'est pas à l'ordre du jour. En ce début de dialogue, le risque de monologues successifs est donc réel. À Cuba, pour sa première visite, John Kerry aura peut-être l'occasion d'en faire un sur la question des droits de l'homme.
La correspondance de Frédéric Carbone à Washington. Une résistance au VIH peut être unique au monde, celle d'une jeune fille de 18 ans infectée par le virus du sida pendant la grossesse de sa mère. Elle semble aujourd'hui hors de danger. Son cas a été présenté hier par des chercheurs de l'Institut Pasteur, de l'INSERM et de l'APHP lors de la 8e conférence internationale sur le VIH qui se tient jusqu'à demain à Vancouver, au Canada. Comprendre comment cette jeune Française est aujourd'hui en rémission alors qu'elle n'a été sous traitement antirétroviral que jusqu'à l'âge de 6 ans serait une étape décisive pour élaborer un vaccin. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, vient de confirmer des aides supplémentaires pour les éleveurs. Déclaration à l'instant sur France 2. Alors que la colère des éleveurs normands contre la faiblesse des prix d'achat de leur production ne faiblit pas, ils sont quelques centaines à bloquer les routes pour accéder à Caen et sur l'A84 entre Caen et Rennes. D'autres barrages devraient être organisés dans la matinée autour d'Avranches, selon le syndicat agricole FDSEA. Barrage levé en revanche au Mont-Saint-Michel, les éleveurs exigent la venue de Stéphane Le Foll à Caen, mais le ministre de l'Agriculture propose lui de recevoir la profession jeudi après la remise d'un rapport sur les prix des productions agricoles. Fabien est producteur laitier à Bayeux. Il ne veut pas dévoiler son nom alors qu'il vient de passer sa deuxième nuit sur le barrage à proximité de Caen. Sa détermination est intacte.
Ça fait des mois qu'on se lève tous les matins et on sait qu'on va perdre de l'argent. Ça fait des mois qu'on travaille 50 à 70 heures par semaine et qu'on perd de l'argent. Qu'on se lève tous les matins sachant qu'on a encore des facteurs qui vont arriver qu'on ne va pas pouvoir honorer. Donc plutôt énervé. Hein. On voit bien hein, dans les collègues, il y a des agriculteurs qui ne peuvent plus payer le fuel pour aller récolter. Je pense que septembre-octobre va être très 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 dur.
Vous êtes prêt à aller
Jusqu'à ce que le ministre se décide de se lever ses fesses de son bureau et venir sur place voir comment ça se passe. On n'a pas photo. Hein. C'est pas à nous d'aller se déplacer à Paris. Hein. On va pas aller dans son bureau doré. Et puis l'intérêt à se ramener. Hein.
Fabien, producteur laitier à Bayeux, en la Normandie, qui est la première région d'élevage de France. Pour la première fois depuis sa création, qui remonte à 1818, le taux du livret A va passer sous le seuil symbolique de 1% le 1er août prochain. Décision prise hier par le gouvernement sur proposition du gouverneur de la Banque de France, qui justifie cette baisse par la faiblesse de l'inflation. Avec le nouveau taux de 0,75%, les épargnants resteront malgré tout gagnants, puisque l'inflation se situe autour de 0,3%. Mais l'on pourrait assister à une accélération de la décollecte, Jean-Marc Chardon.
Plus de 2 milliards d'euros ont été retirés des livrets A et le nombre de comptes est passé de 63 à 61 millions et demi en l'espace d'un an. Il est donc fort probable que des épargnants soient tentés par d'autres placements, mais pas de retrait massif attendu pour autant. Les livrets A représentent plus de 262 milliards d'euros. Moins attractifs et pour cause avec une rémunération de 0,75%, ils ont toujours le grand avantage d'être défiscalisés et sans risque. Cette épargne sans risque, qui quoi qu'il advienne, reste fort prisée de l'épargnant français. Sur 2014, elle a représenté 66 milliards d'euros contre seulement 8 pour les placements spéculatifs, actions, assurance vie, PEA. Du coup, ce sont les PEL, les plans d'épargne logement qui, mieux rémunérés, devraient séduire une partie de la clientèle. Avec une réserve, ils sont moins liquides. Ils ne correspondent pas vraiment au profil d'une épargne de précaution, mais ils rassurent l'épargnant qui, depuis la crise financière de 2007-2008, joue la sécurité en privilégiant les livrets réglementés en général et l'immobilier en particulier.
Des passes d'armes politiques dans un hémicycle clairsemé. Les députés ont commencé hier soir l'examen du projet de loi sur le droit des étrangers, texte porté par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, plutôt offensif hier. Il a défendu la politique du gouvernement en matière d'asile et d'immigration. Pas de laxisme, a expliqué Bernard Cazeneuve en réponse aux attaques de la droite. Les Européens en panne de solidarité pour prendre en charge les demandeurs d'asile. Les 28 ministres de l'Intérieur se sont certes entendus hier pour délester provisoirement la Grèce et l'Italie de la prise en charge des demandeurs d'asile, des Syriens et des Érythréens principalement. Mais c'est un accord au rabais qui n'offre que 32 000 places environ contre les 40 000 requises. Un nouveau rendez-vous a été fixé à la fin du mois de novembre pour atteindre l'objectif fixé par la Commission européenne, 60 000 personnes prises en charge sous deux ans. Faut-il modifier le CICE, le crédit d'impôt compétitivité emploi, est l'un des emblèmes de la politique de François Hollande. L'exécutif met à profit l'été pour réfléchir à ce dispositif qui coûte 20 milliards d'euros par an en réduction d'impôts pour les entreprises. Ses détracteurs assurent qu'il est mal ciblé. Une décision est attendue dans les prochains jours, Frédéric Seyss.
Comme souvent, François Hollande écoute, consulte, mais ne laisse rien paraître de ses intentions. Ces derniers jours, il a reçu les avis des ministères concernés, Travail, Économie et Finances. Le sort du CICE devrait être tranché d'ici à la fin du mois de juillet, selon une source élyséenne. Trois options s'offrent au président de la République: maintenir le dispositif en l'état et ses 20 milliards d'euros de manque à gagner annuel pour le Trésor public, dispositif qui a déjà permis aux entreprises de retrouver un taux de marge comparable à celui d'avant la crise de 2008. Deuxième option, transformer ce crédit d'impôt en baisse pérenne des cotisations patronales. Troisième possibilité, faire évoluer le CICE en le ciblant davantage vers les entreprises les plus soumises à la concurrence. C'est pour cette option que plaide une partie des parlementaires socialistes. Un rapport rédigé par les députés Jean-Marc Germain et Guillaume Bachelet sera d'ailleurs présenté ce lundi en bureau national du PS. Et selon nos informations, il plaidera précisément pour restreindre le crédit d'impôt à certaines dépenses des entreprises, comme la formation ou l'investissement. Aujourd'hui, regrette l'un des rédacteurs du rapport, une entreprise qui place son CICE dans les dividendes pour les actionnaires n'est pas dissuadée de le faire. Mais tout cela n'est pas si simple, car François Hollande craint par-dessus tout la complexité du dispositif. À l'Élysée, on a le sentiment que les entrepreneurs, après beaucoup d'hésitations et d'incertitudes, ont fini par s'approprier le CICE. Le modifier risquerait donc de porter un coup à la confiance, le mot qui revient sans cesse chez François Hollande quand il parle d'économie. Il y a en tout cas une relative urgence à décider, car c'est à l'automne que se votera le budget 2016, le dernier budget plein du quinquennat de François Hollande.
Une commande de 21 Airbus pour 2 milliards de dollars. La compagnie aérienne chinoise Spring Airlines, une compagnie à bas coût, a annoncé avoir acheté 21 Airbus A320 pour l'équivalent donc de 12 milliards de yuan, soit 2 milliards de dollars. Le temps de ce mardi 21 juillet, toujours nuageux au nord, quelques pluies attendues, chaud et orageux dans le sud. Cet après-midi, il fera 22 degrés à Quimper, 25 à Lens, 29 à Paris, 31 à Marseille, 34 à Strasbourg, Mont-de-Marsan, Marsan et Perpignan jusqu'à 39 degrés à Alès dans le Gard, Nicolas.
C'était le journal de Catherine Dutu. On vous retrouve tout à l'heure, Catherine, à 9h pour le prochain journal.